Eh bien, bonjour aux auditeurs. Nous nous trouvons aujourd'hui dans la maison natale et familiale de Jean de La Fontaine pour évoquer la vie, l'œuvre, la personnalité d'un des auteurs classiques les plus appréciés, fréquenté souvent dès la maternelle et paradoxalement les moins connus. Le présent entretien nous permettra de voyager en terre lafontainienne pour faire découvrir une œuvre polymorphe, c'est-à-dire qu'on ignore souvent l'étendue de la palette lafontainienne. La Fontaine s'est essayée à tous les genres, mais seuls les contemporains et la postérité ont retenu les fables. Alors les fables restent incontestablement un chef-d'œuvre. Nous verrons ultérieurement que La Fontaine s'empare d'un genre mineur, méprisé par les doctes, qu'il porte à son plus haut degré de perfection, ce qui lui vaut la définition d'être l'Homère de notre littérature, selon un mot de Sainte-Beuve. Une œuvre donc polymorphe dans laquelle les critiques et les lecteurs puisent, selon leur sensibilité, pour façonner une image de l'auteur et retenir tantôt le moraliste, tantôt le poète lyrique. On comprendra donc qu'évoquer aussi cette œuvre, c'est entrer de plein fouet dans une complexité et une complexité qui vire souvent à l'étonnement. La Fontaine, on entretient avec La Fontaine une relation de proximité affectueuse et nous nous laissons souvent emporter par la fluidité du vers, sa simplicité, son naturel, sa négligence, sans voir que La Fontaine est l'un des esprits les plus cultivés de son époque, qu'il est ancré dans des traditions auxquelles il puise et que, là n'est pas le moindre paradoxe de La Fontaine, ce genre mineur qu'il a porté à la perfection nous fait croiser les débats et les controverses les plus importantes du XVIIe siècle. C'est donc aussi un voyage au cœur d'un XVIIe siècle plus ou moins connu que nous entreprendrons aujourd'hui. Donc, on l'aura compris, cette évocation se placera sous le signe du paradoxe. Paradoxe d'un auteur qui s'est plu à émailler ses fables et ses contes de confidences personnelles souvent cryptées. Paradoxe de celui qui, en se tournant vers des genres peu prisés par les doctes, est entré finalement dans la littérature par la grande porte, jusqu'à être panthéonisé. La Fontaine est sans doute l'écrivain le plus cher au cœur des Français. Je crois que si on se livre à un micro-trottoir et qu'on demande aux personnes de citer un ou deux auteurs, La Fontaine viendrait spontanément, il a été fréquenté, oui, dès l'école primaire. Alors on peut songer aux récitations, aux dessins animés qui mettent en scène certaines fables. Donc c'est ce paradoxe-là, paradoxe aussi d'une œuvre mineure qui croise les débats philosophiques de l'époque autour du cartésianisme, les grands débats littéraires sur la traduction, les belles infidèles, débats moraux, on le verra, quelle est l'éthique de La Fontaine, à supposer qu'il y ait une éthique, les critiques sont partagées. La Fontaine est-il un libertin, un adepte de l'épicurisme, un disciple de Gassendi, un moraliste chrétien, ou bien butine-t-il de mouvement en mouvement, d'école en école, pour faire son miel et fabriquer une petite morale à part soi, ce que Jean-Charles Darmon appelle une éthique douteuse, placée sous le signe de la ductilité, de la labilité. On l'aura compris, lire La Fontaine, c'est s'engager, s'embarquer dans l'aventure palpitante de la lecture, c'est comprendre que la lecture est un exercice. Et La Fontaine le savait mieux que quiconque, lui qui, dès son enfance, a lu Homère et Platon en latin. Alors, venons-en à présent à l'existence de La Fontaine, qui n'est pas anecdotique, puisque cette existence, elle se caractérise par des zones d'ombre qui ouvrent le champ aux hypothèses les plus diverses, lesquelles vont tout à la fois façonner une représentation de La Fontaine auprès par les érudits et qui participent de la légende. Alors, La Fontaine est née dans cette maison dans laquelle nous nous trouvons en 1621. Nous fêtons cette année le 4e centenaire de sa naissance, du reste. Il a été baptisé le 8 juillet, soit le jour même de sa naissance, soit le lendemain, comme il était coutume à l'époque. On sait très peu de choses de l'enfance de La Fontaine. On peut l'imaginer courant les champs, les bois, accompagnant son père qui était maître des eaux et forêts. La Fontaine naît dans un milieu vraiment un milieu de la bourgeoisie aisée, et son père est en train de s'introduire dans de chercher l'anoblissement. Il a une charge, il signe un certain nombre de documents du nom d'écuyer. Donc Charles de La Fontaine, le père de Jean, a quitté le milieu de la petite bourgeoisie marchande pour devenir un officier royal. Donc c'est dans un milieu aisé, plus qu'aisé même, culturel, que naît La Fontaine. Donc on est loin de l'image dépeinte par Diderot. Alors, on peut l'imaginer donc observant la nature, c'est un poste d'observation privilégié des animaux, l'imaginant rêvant dans les champs. Attention, on sait que La Fontaine a noué un lien de proximité forte avec la nature, les fables en témoignent, mais il ne faut pas se méprendre, il ne faut pas majorer le poids de l'observation du vécu authentique, sachant que les fables sont traversées de réminiscences littéraires, qu'elles cultivent les topiques, qu'elles renvoient aux églogues des latins. Il y a toute une tradition littéraire aussi qui se donne à lire dans les fables. Donc ne nous laissons pas duper par cette image du garçon qui court avec son père la forêt, même si ce vécu joue son rôle. La Fontaine se montre lecteur précoce d'Homère et de Platon. On le retrouve, alors il a un frère cadet naît en 23, il n'aura qu'un frère qui entrera dans les ordres. Donc on sait peu de choses, sinon que les parents de La Fontaine s'entendaient mal et qu'il a vécu le départ de sa demi-sœur Anne de Jouy pour Paris, visiblement assez mal. Donc une enfance que certains critiques pensent perturbée, et d'où peut-être l'hypersensibilité de La Fontaine, sa recherche d'une figure maternelle au travers des protectrices, souvent plus âgées, vers lesquelles il va se tourner. Alors on le retrouve, et les documents qui ont disparu l'attestent, au collège de Château-Thierry, aux mains de ses maîtres de campagne qui sont souvent plus formés qu'on ne l'estime parfois. Il apprend la rhétorique et la grammaire, ce qui était d'usage à l'école à l'époque, et reçoit une solide formation latine qui lui permettra de lire dans le texte les grands auteurs. Donc insistons-y, parce que la légende veut que La Fontaine découvre la poésie en écoutant à Château-Thierry justement une ode de Malherbe récitée par un officier. Il est probable que son goût pour la littérature au contact des grands textes soit né dans sa jeunesse. Alors, il était bon élève. Il rencontre en troisième François de Maucroix, qui restera le grand ami de son existence. Donc, on le voit, La Fontaine est un homme de fidélité, un homme d'attachement. Il devra vendre sa maison en 1676 sous le coup de rudes difficultés financières. Et cette maison, il la léguera à un oncle. Autrement dit, la maison reste quand même dans le cercle familial. C'est aussi un autre élément, un autre point à prendre en considération pour celui qu'on dit souvent détaché de sa famille, qui aurait été mauvais époux, père déplorable. Donc attention là aussi à démêler ce qui relève de la légende tôt construite et de la réalité. Alors, La Fontaine va en avril 41 rentrer à l'oratoire. Il va porter le petit collet pour être prêtre. Il quittera l'oratoire 18 mois plus tard. Alors cet épisode entre 41 et 42, ces 18 mois passés à l'oratoire sont souvent occultés par la critique et dans les manuels, ou minorée. Quoi qu'il en soit, il faut rappeler brièvement ce qu'était l'Oratoire de Paris. L'Oratoire de Paris a été créé et fondé par Pierre de Bérulle en 1611. Pierre de Bérulle est le grand représentant de la spiritualité française. Il acclimate en France l'oratorio de Saint-Philippe Néri, qui est un véritable trublion. Là, c'est un pied de nez à la représentation du tridentinisme comme reconquête des âmes catholiques. On est très loin de la sinistrose avec Philippe Néri, qui était une espèce de Socrate chrétien, moderne, qui aimait à mortifier les hommes dans leur amour propre, qui était vêtu un peu en débraillé, qui portait toujours le même vêtement, qui était attaché à l'humilité, qui pratiquait la prière et l'oraison, et qui était volontiers subversif. Alors, Bérulle n'est pas Néri, mais les archives de l'oratoire, de l'oratoire français rendent hommage à ce saint ludique, ludion, comme l'appelle Philippe Le Guillou. L'oratoire de Paris, à l'époque où La Fontaine le rejoint, est l'une des congrégations les plus prestigieuses et les plus sévères. On pouvait en sortir librement. Là aussi, les documents, la légende, veulent que La Fontaine ait été chassée de l'oratoire. Il faut être prudent. Pourquoi La Fontaine, alors qu'il devait se lever à 4 heures du matin et être soumis à une discipline extrêmement rigoureuse entre la prière, l'étude, aurait-il attendu 18 mois pour partir, alors qu'il pouvait partir de lui-même? Une chose est sûre, les maîtres qui dispensent le savoir sont parmi les plus grands esprits du siècle. La maison est très ouverte à la philosophie nouvelle de Descartes. Le père Gibieuf est en contact avec ce philosophe. Longtemps, les oratoriens resteront cartésiens. La maison est encore ouverte aux sciences, à la musique. Le père Mersenne a écrit des textes sur cette musique qu'on entend à l'oratoire. Et les courtisans se rendaient très régulièrement pour entendre cette musique et les beaux chants de l'oratoire. Donc celui qui en 1658 a composé le poème L'Adonis, qu'il offrira à Nicolas Fouquet, poème pré-racinien pour Paul Valéry, témoigne sans doute que l'oratoire a permis à La Fontaine d'épanouir sa sensibilité, d'y découvrir la musique et donc un lieu de liberté intellectuelle. L'un des trublions aussi de l'oratoire est le poète Nicolas Bourbon qui accueillait dans sa petite chambre tout ce que la France d'alors et du Paris comptait mieux. Gassendi a fréquenté l'oratoire. Nicolas Bourbon évoquait les œuvres de Rabelais et stigmatisait les jésuites. Donc il y a un vrai milieu, c'est un milieu intellectuel intense, loin aussi des étiquettes qu'on peut coller à l'oratoire. Donc la question qui se pose, quelle va être l'empreinte laissée dans l'œuvre de La Fontaine par l'instruction qu'il y reçut. Alors, il a étudié sans doute 12 mois la théologie à Saint-Magloire, qui était une maison nouvellement créée. Que La Fontaine fut rétif à la théologie, qu'il ne l'aima pas, est une certitude, le poète l'a dit lui-même. Qu'il ne fut pas ébloui par l'enseignement qu'il reçut est une autre affaire. On peut ne pas être doué dans une discipline et être frappé par la puissance intellectuelle, le charisme de ses maîtres, et être finalement marqué à tout jamais par des leçons qui, sur le coup, n'ont pas porté leurs fruits. Donc, au sortir de l'oratoire, La Fontaine a une solide culture religieuse, il connaît les textes, il a été initié à la théologie, ce qui est un point à retenir pour sans doute mieux comprendre son œuvre de moraliste. Alors, il quitte l'oratoire en 42, va fréquenter, se lance dans des études de droit, sera déclaré avocat au Parlement de Paris en 1649. Et entre 1642 et 1649, il fréquenterait un autre milieu important, des jeunes gens comme lui, qu'on appelle les paladins, qui font des études de droit et qui passent leur temps entre le cabaret, la bonne chère, les amusements et les réflexions sérieuses. C'est le milieu de la table ronde, fréquenté par Furetière, Talmont des Réaux, le Antoine de la Sablière, Maucroix, Pélisson, celui qui va sans doute introduire La Fontaine auprès de Fouquet. On y réfléchit, on y a des débats sur la démocratie, sur la monarchie. La démocratie est-elle préférable à la monarchie? Donc très tôt, La Fontaine acquiert ce goût de la réflexion, ce goût pour le et la politique, dont les contes comme les fables portent la trace et l'empreinte. Donc, des années riches pour La Fontaine, qui continue sa formation, puisque Pélisson va vite s'imposer comme chef de file, et notamment de l'esthétique galante. Une espèce de milieu séminal et fécondant, où La Fontaine dut faire montre de ses talents de conteur, donc plus précocement aussi qu'on l'a dit. Talmont et Maucroix étaient des conteurs remarquables, et comment La Fontaine n'aurait-il pas cherché à rivaliser avec eux. Donc une atmosphère joyeuse et turbulente qui n'exclut pas le sérieux et la profondeur, et là aussi c'est un trait d'époque. Cette conciliation de ce que les humanistes du XVIe siècle appelaient la festivitas, ce goût de l'enjouement, de la gaieté, cette façon de ne pas se prendre au sérieux pour évoquer des problèmes fondamentaux relatifs à la condition humaine ou à la politique. Donc, La Fontaine va se marier en 1647 avec Marie Héricard, qui est âgée de 14 ans, sur ordre de son père. On le dit complaisant. Et on s'aperçoit en lisant la biographie de La Fontaine que ce fils est un bon fils, puisqu'il accepte la charge de maître des eaux et forêts plus tard, qu'il accepte un mariage contre lequel il ne se révolte pas. Donc là encore, c'est une manière peut-être de nuancer cette idée d'un La Fontaine détestant la famille, ou en tout cas en marge de la famille, en marge des obligations familiales et sociales. Ça n'est pas certain. Alors, La Fontaine rejoindra, aura toujours un pied dans sa maison natale, même lorsqu'il fait des séjours à Paris, il peut quitter brusquement les Palatins. D'ailleurs, il est parfois un an sans donner de nouvelles aux grandes dames de ses amis qui ont pu composer des vers sur ce sujet. Et dans une épître à Cassandre, La Fontaine va quitter Paris pendant la Fronde, entre 49 et 53, il restera à Château-Thierry, là il sera tout entier dévolu à ses charges, et la Champagne est dévastée, il y a des viols, des pillages, c'est la misère. On peut aussi penser que le poète a acquis ce sens très sûr de la détestation de la violence et de la guerre aux premières loges provinciales de la Fronde. Alors, la première tentative est assez tardive d'écriture, c'est la traduction d'une pièce de Terence, l'Eunuque, en 1654, qui fait un flop. La Fontaine en est sûrement durement éprouvée. On pense qu'il est resté à Château-Thierry jusqu'en 1654 pour le coup. Et c'est Pélisson, donc en 1657-58, qui le présentera à Fouquet et pour se faire introniser et introduire et être reçu par ce très grand mécène qui regroupait, là c'est aussi un troisième milieu, qui regroupait ce que la France comptait alors d'artistes les plus en vue et les plus aguerris, les plus chevronnés, tous les grands auteurs, tous les grands, les futurs talents fréquentaient le milieu Fouquet, Madame de Sévigné par exemple, hein, qui a très tôt apprécié La Fontaine. Donc là encore, un milieu nourricier, nutritif, qui va inspirer un pan de la poésie de La Fontaine. Donc La Fontaine va présenter un poème épique, L'Adonis, à Fouquet, un exemplaire superbement calligraphié, illustré par Chauveau et Jarry. Et un jeu s'installe entre Fouquet, le richissime Fouquet, qui est en train de faire bâtir le château de Vaux, qui lui vaudra la chute que l'on sait. Fouquet va... La Fontaine renverse les termes de la pension ordinaire, puisqu'il le présentera régulièrement à Fouquet des pièces de circonstance, à charge pour Fouquet, hein, de le protéger. Donc La Fontaine s'engouffre là dans une période où il va cultiver ce qu'on appelle l'esthétique galante et mondaine, cultiver les petits genres, les poèmes de circonstance, mais aussi entreprendre, parce que c'est une œuvre de commande, le songe de Vaux, hein, qui paraîtra en 771 par fragments. Vaux est en construction, donc La Fontaine doit travailler sur plan et faire œuvre d'imagination. L'œuvre aussi est particulièrement, il s'agit d'une promenade dans les jardins de Vaux, une réflexion sur les arts. Hein, là encore, cette réflexion, elle rejoint le manifeste poétique. Ce sera un peu, le procédé sera un peu le même dans Les Amours de Psyché et de Cupidon, où des amis se livrent à une promenade, et ensuite on a l'évocation du mythe d'Apulée, hein, de l'histoire de Psyché et de Cupidon, qui sont réédités cette année dans le cadre du quatrième centenaire de la naissance aux éditions Gallimard. Donc là, la réédition de ces œuvres ouvre sans doute des pistes nouvelles à la recherche, on ne peut que s'en réjouir, hein, puisque la recherche s'intéresse quasiment uniquement aux fables et dans une moindre mesure aux contes. Alors, à la suite de l'arrestation de Fouquet, de la très belle fête de Vaux, le 5 septembre 61, La Fontaine va devoir trouver un protecteur. Il retourne sans doute à Château-Thierry. Autre coup, il va accompagner son oncle Jeannard en Limousin et va écrire des lettres à sa femme. Là aussi, en 64, on pense que c'est cette relation d'un voyage de Paris en Limousin est une espèce de laboratoire ou des fables et des contes. En 64, de retour d'exil, La Fontaine va publier deux contes, Joconde et le Marie Cocu est content. Et cette histoire de Joconde, qui est avec laquelle il entre en compétition, en rivalité avec des œuvres d'un sieur de Bouillon décédé précédemment, l'institut véritablement conteur, l'œuvre est éblouie, et la réussite et La Fontaine est en selle, hein, pour entrer sur la scène littéraire. Il va, alors en 65, à la demande de Louis Giry, il va traduire les vers latins de la Cité de Dieu, hein, donc la œuvre religieuse. Il rejoint en 64, il écrit aussi le Chemin de velours, c'est-à-dire qu'il prend parti contre les jésuites, contre Escobar, et se place dans le camp de Pascal des Provinciales. Donc là, il noue des affinités avec le milieu port-royaliste. En 1671, il participera à l'élaboration du recueil de poésie chrétienne et diverse, hein, Arnaud d'Andilly souhaite qu'il donne son nom au recueil. Il écrit une préface au prince de Conti. Et là aussi, c'est une œuvre religieuse. On peut se demander, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi les messieurs ont eu vent des contes de La Fontaine et de Joconde. Alors, La Fontaine n'en a pas encore beaucoup écrit. Alors, ça, c'est deux contes. Première partie des contes un mois plus tard, hein, en janvier 65, et là on a la première partie des contes. En 66, on aura la deuxième partie des comptes. En 71, la troisième partie des comptes. En 74, les nouveaux comptes, changement de nom qui doit interpeller. Les comptes seront saisis le 5 avril 75 par la Réni, au prétexte qu'ils incitent au libertinage de mœurs. La production, en 68, c'est le premier recueil des fables, livré à 6. 78-79, le second recueil des fables qui introduit pour les spécialistes une césure dans les contes, l'orientation, la dimension philosophique et politique y serait plus prégnante. Donc la grande période de production, d'écriture pour La Fontaine, c'est 64-79. À la suite de ces années, alors, en 73 aussi, il écrit un poème religieux, imprégné d'augustinisme, d'après un texte de Arnaud d'Andilly, donc, ce qui montre aussi ses affinités avec Port-Royal. On y reviendra peut-être ultérieurement. Donc notez, en 82, le poème du quinquennat, grand poème scientifique hein, sur ce quinquennat prometteur, on peut penser à la chloroquine, hein, poème scientifique, 85, 5 contes avec des ouvrages, les ouvrages commis avec Maucroix, les ouvrages de prose et de poésie des sœurs de Maucroix et de La Fontaine. Donc là, 5 derniers contes. 93, c'est le livre des fables, le dernier livre, et ensuite quelques pièces, et La Fontaine termine sur une traduction du Dies Irae, dont il livre le manuscrit à Maucroix pour avis. Donc voilà, à tire d'aile, un parcours qui témoigne des milieux très divers, fréquentés par La Fontaine. Je ne l'ai pas dit, en 73, il est accueilli par Madame de la Sablière et logé jusqu'en 93 chez elle. Madame de la Sablière est une libre penseuse, une femme ouverte à la philosophie. Et à la fin de sa vie, La Fontaine fréquente les Vendômes, les Conti, qui sont des débauchés notoires. Donc là, on voit la ductilité d'un poète qui se partage entre de véritables engagements, je crois, religieux, son inquiétude religieuse n'est aujourd'hui remise en cause par personne, et la fréquentation d'un milieu de libertins, d'esprit fort. Donc là aussi, c'est un paradoxe hein, que nous autres contemporains avons du mal à imaginer, puisque nous sommes épris de catégorisation, de simplification, etc. Donc là aussi, La Fontaine, on le voit, est un homme qui connaît et qui a cette intelligence sans doute et cette sensibilité de se faire accepter partout. Il meurt le 13 avril 95 après avoir renié ses comptes. Il a été reçu à l'Académie française en 1684. Il y a des débats houleux. Il meurt pauvre et on retrouve sur son corps un cilice. Voilà. Donc parcours assez éblouissant, contrasté d'un homme qui a fréquenté les plus grands esprits de son époque. Voilà. Et comment son œuvre n'emporterait-elle pas l'empreinte, hein, qu'il s'agisse des fables, mais ça on le sait depuis longtemps, ou des contes. Bien, donc à l'issue de ce bref parcours bio et bibliographique, nous allons nous pencher à présent sur ce qui semble être un diptyque, les fables et les contes. Quelques mots sur les fables qui sont archi connues et tout à la fois méconnues. Alors La Fontaine, lorsqu'il se tourne vers ce genre moral, c'est que cette forme, ce type de texte ne relève pas de la littérature. Il emprunte, c'est un genre scolaire qui était destiné à l'éducation, à la formation des jeunes élèves. Hein, on leur inculquait quelques principes de morale élémentaire, comme on le voit dans les fables d'Ésope. Hein, La Fontaine, dans le premier recueil, puise essentiellement chez Ésope et chez Phèdre, autres fabulistes de l'Antiquité. Et il va donc faire entrer les fables dans la littérature en égayant le récit, c'est-à-dire en l'amplifiant. La fable est un genre bref, c'était un genre en prose. Donc La Fontaine, comme le titre l'indique, fable choisie, mise en vers. Donc il y a un choix, on peut aussi réfléchir à ce qui motive ces choix. Et ensuite, le travail de versification qui est éblouissant. Hein. La Fontaine est un musicien et un magicien du vers. On trouvera assez de documents pour le montrer. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il va accorder une place importante à l'apologue, hein, au récit en lui-même. va l'étendre, l'égayer, donc accorder au récit une place première. Il y avait dans toute fable une moralité. Alors cette moralité, elle est exprimée soit en fin d'apologue, hein, qui est l'âme du récit, soit au début, ça ce sont les virtuosités, les aménagements opérés par La Fontaine, quand il ne supprime pas la moralité, ce qui est là aussi une invention. La première fable du livre 1, hein, du recueil de 66, La cigale et la fourmi, ne se clôture sur aucune moralité. C'est donc un geste poétique, littéraire, moral, fort, que de laisser l'interprétation au choix du lecteur. Alors on a souvent dit que La Fontaine était du côté de la fourmi ou qu'il était cigale, les choses sont beaucoup plus complexes, et je vous renvoie à une très belle explication d'Yves Le Pestibon que vous trouverez sur YouTube, hein, qui renouvelle la lecture de ces fables en montrant qu'il y a un effet de rupture entre chacune d'entre elles, puisque la fable suivante c'est Le corbeau et le renard, qui semble démentir, en tout cas nuancer. On progresse toujours ainsi chez La Fontaine, rupture mais aussi avancée, progression. Il faut mettre en perspective les fables les unes avec les autres. Il faut les lire isolément, séparément, mais aussi comprendre la place qu'elles occupent dans le recueil, sachant que la première et la dernière place sont toujours lestées d'une importance ou d'une fonction capitale pour La Fontaine. Et là aussi, c'est au lecteur de mettre en perspective les fables qui peuvent se contredire dans la mesure où l'auteur manie la contradiction, la palinodie, l'ironie. Donc, on le disait, on le redit, exercice, hein, vraiment exercice de lecture qui faisait défaut à Ésope et à Phèdre. Donc, les recueils, lorsque La Fontaine n'invente pas les sujets de ses fables, c'est ce que certains lui reprocheront, et c'est la raison pour laquelle il ne figure pas dans l'art poétique de Boileau. Hein, il puise, il emprunte son bien où il le trouve. Il y avait les recueils de fables qui appartenaient à la tradition scolaire étaient régulièrement édités. Le recueil de Nevelet paraît en 1610, c'est une anthologie, sera réédité en 1660. Le maître de Sacy, donc, qui est un des grands maîtres de Port-Royal, hein, aux petites écoles, va traduire les fables affranchies d'Auguste, hein, les fables de Phèdre, qui sont redécouvertes, c'est une coïncidence, dans le milieu champenois à la fin du XVIe siècle. Donc la connexion n'est pas géographique entre cette découverte, mais elle est affective. Et Phèdre était un esclave affranchi, donc on comprend aussi la portée politique. Ésope passe pour avoir aussi été un esclave. Donc on comprend que la littérature a pour fonction d'émanciper les hommes, hein, et de les conduire à une forme de liberté et de maîtrise. En tout cas, c'est sanctifier cette littérature que les anciens, admirés par La Fontaine, concevaient comme une manière de réformer l'humain. Il y avait une fonction civilisatrice, et voir qu'on appelait protreptique, c'est-à-dire qu'en lisant un texte, on peut, par examen intérieur, pour peu bien sûr qu'on en fasse l'effort, on peut réfléchir sur soi et sans doute changer sa vie. Donc La Fontaine s'inscrit dans cette tradition. Donc premier recueil des fables empruntées à Ésope et à Phèdre. Alors là, il va tout au long de ce premier recueil varier la narration, les techniques narratives, la versification. Donc tout cela est connu. Le deuxième recueil en 78-79, qui regroupe les livres 7 à 11, marque une césure parce que l'inspiration s'y ouvre au monde. Hein. On a des fables indiennes, les fables de Pilpay, donc les sources auxquelles emprunte La Fontaine se diversifient, s'universalisent en quelque sorte. La Fontaine passe pour avoir été influencé chez Madame de la Sablière par les récits de François Bernier, qui venait des Indes et qui a traduit en français les œuvres du philosophe Gassendi, qui était épicurien, et Gassendi voulait articuler l'épicurisme de Lucrèce, hein, avec le christianisme. Donc c'est en ce milieu, dans le salon de Madame de la Sablière, que ce bon monde se retrouve. Donc les fables, tous les exégètes le disent, le second recueil porte vraiment la marque d'une ambition hein, qui s'est affichée avec des enjeux philosophiques marqués. Le livre 12, qui est réhabilité aujourd'hui, hein, certains critiques comme Jean-Pierre Collinet pensaient que La Fontaine s'était un peu essoufflée en écrivant ce livre 12. Patrick Dandrey et d'autres à sa suite ont montré l'importance du livre 12. Ce livre 12, qui est une espèce de testament, qui est dédié là encore à un enfant royal. Hein, La Fontaine est conscient qu'il faut éduquer les rois. Hein, et cet enfant royal, ce dauphin, a pour précepteur Fénelon qui donnait à traduire à son jeune élève des fables de La Fontaine. Donc la dimension, le geste politique, comme pour le premier recueil, d'adresser un recueil de fables à un futur roi est symptomatique, emblématique de l'ambition de La Fontaine. Alors, dans ce livre 12, qui se termine par une fable qui nous ramène du côté de Port-Royal, de la retraite, de la solitude, du dépouillement, hein, on voit bien là encore que les fables sont traversées par deux veines, une veine profane, galante, et une veine plus spirituelle. Y a-t-il deux veines ? Certains critiques se posent la question, y a-t-il deux veines ou bien s'agit-il d'une même inspiration ? Hein, sachant qu'il y a aussi des convergences entre l'augustinisme et l'épicurisme. Alors, il est important de voir que La Fontaine insère dans le livre 12 deux contes de La Fontaine, écrits en 82, La Matrone d'Éphèse, qu'il emprunte à Pétrone, c'était une nouvelle qui circulait abondamment, qui paraît innocente pour les critiques, non Pétrone est quand même l'auteur du Satyricon, et on a un recueil de témoignages des gens proches de Port-Royal, de ceux qu'on pourra appeler jansénistes et jansénisants, qui font l'éloge de Pétrone, hein, qui trouvent qu'il y a des audaces stylistiques, mais que c'est un moraliste qui fustige les vices et les travers humains, qui fustige les grands quand on ne l'a jamais fait. C'est aussi le trait d'union entre les fables et les contes, cette constance à dénoncer les impostures, les vices humains, les travers des hommes et en particulier des puissants qui ont oublié sans doute l'idéal qui était celui d'Erasme, l'idéal du prince chrétien. Hein, faire la paix plutôt que la guerre, apporter la prospérité, faire régner la tolérance, faire rayonner les lettres, et les sciences et les arts. Donc c'est ce message que je pense érasmien, hein, que La Fontaine n'a ne cesse de diffuser. Donc Pétrone, c'est pas seulement un auteur satirique ou on pourrait dire pornographique, c'est un moraliste qui est perçu comme tel dans le groupe port-royaliste qui lui rend hommage. Et Belphégor est tiré d'une fable de Machiavel. Machiavel, dont on redécouvre aujourd'hui l'intérêt, enfin, dans ses œuvres littéraires, hein, il en a écrit très peu. Et le Belphégor est une manière de commenter d'illustrer les concepts phares de la pensée machiavélienne, hein, la virtu, la nécessité, la fortune. Donc, on retrouve ces éléments dans les œuvres littéraires et chez La Fontaine. Hein, pour qui nécessité fait loi. Donc le fait d'insérer ces deux contes dans le livre testamentaire montre bien que La Fontaine était profondément attachée à ses textes, et on peut regretter que dans son édition pour la Pléiade, qui est magnifique, Jean-Pierre Collinet ait finalement amputé le corpus narratif, hein, celui des contes, de ces deux pièces maîtresses, qui ne sont pas anodines, contrairement à ce qu'on peut lire dans les appareils de notes. Dans Belphégor, on a une vraie réflexion politique. Et tout le travail de La Fontaine, qu'il s'agisse des fables ou des contes, est de pratiquer la réécriture. Il s'adresse à plusieurs cercles de lecteurs, hein, et on a des lecteurs, ou des publics, comme les spécialistes le montrent. Et le premier cercle de ces lecteurs est érudit, savant comme La Fontaine, connaît par cœur ces textes qui font partie presque de soi de la culture, et sont capables de voir ce qui se joue dans la réécriture du texte sources, hein, qu'il s'agisse d'inflexion, d'ajout, de suppression, il y a une espèce de, entre soustraction et addition, que se dit une pensée de derrière ou une pensée qui n'est pas formulée. Et là aussi, c'est, j'invite les auditeurs à devenir ces lecteurs soucieux de confronter le texte modèle, le texte source à la réécriture lafontainienne. Et on s'apercevra que les choix opérés sont porteurs de signification. Donc voilà pour les fables, un genre moral, scolaire, auquel La Fontaine va donner l'aura que l'on sait. Alors, venons-en à présent aux contes. Pourquoi les contes ? Parce qu'ils ont été appréciés au XVIIe siècle, en tout cas au début, avant l'interdiction de 75, même si à la fin du XVIIe, les fables l'emportent largement sur les contes. Mais au XVIIIe siècle, un auteur comme Diderot considérera que fables et contes sont formes un diptyque. La Fontaine lui-même, dans une lettre qu'il a écrite au chevalier de Sillery à la fin de sa vie, évoque le feu qui l'animait quand il écrivait les fables et les contes. Donc pour l'auteur lui-même, il y a une unité organique entre ces deux versants narratifs en vers de son œuvre. Alors les affinités, les fables comme les contes, adoptent différents genres, l'épigramme, le conte, le récit. Donc ça a été bien montré. Les contes sont un laboratoire qui permet à La Fontaine d'être le brillant artisan du vers qu'on connaît. Mais les liens sont aussi thématiques, hein, entre les fables et les contes. Alors les contes sont souvent dits licencieux, lestes ou gaillards. Ils sont circonscrits aux joutes érotiques, sexuelles et amoureuses. C'est-à-dire que le grand dénominateur des contes, c'est le désir, et notamment le désir sexuel. Les illustrateurs du XVIIIe siècle ont infléchi, avec Eisen et Fragonard, ont infléchi les contes dans le sens du libertinage de mœurs, de l'érotisme léger et fluide. Ça n'est pas si certain. Hein, nous nous trouvons là sur la table de nous avons là la table de travail sur laquelle La Fontaine dut écrire ses contes, hein, dans une atmosphère finalement intime. Donc il y a sans doute une erreur de perspective. Les contes, La Fontaine a dit qu'il parlait de ses licences, les licences stylistiques, là est son intérêt, là est son génie. La licence, c'est aussi ce qui peut être impie, ce qui est marginal, ce qui n'est pas orthodoxe. Donc, on est resté longtemps tributaire de cette vision de conte gaillard. Paul Valéry se demandait comment La Fontaine avait pu perdre son temps à écrire presque 70 contes. Non, La Fontaine n'a pas perdu son temps. Encore faut-il faire un effort pour se lancer dans une œuvre qui paraît légère et fluide. À son propos, La Fontaine évoque des bagatelles. Pour les fables, dans la préface de 68, il évoquera des badineries qui ne sont telles qu'en apparence. Sans doute a-t-il besoin, et éprouve-t-il le besoin, de rectifier le tir, parce que les contemporains, ce qu'il veut toucher, commence à perdre de vue ce qu'était la bagatelle et la badinerie. Rappelons que l'adjectif badin serait dû à Calvin, hein, qui l'utiliserait cet adjectif pour discréditer les songes creux et ses adversaires. Le mot prend une coloration tout à fait différente au XVIIe siècle pour désigner ce qui est léger, enjoué, pas sérieux, mais il y a quand même là aussi étymologiquement une chaîne de textes, une tradition qu'il ne faut pas oublier. Alors, des liens thématiques, on l'a montré, ce qui est un diptyque. Les fables présentent des animaux qui sont personnifiés, hein, c'est l'anthropomorphisme de ces animaux qui ressemblent aux humains. Je me sers d'animaux pour instruire les hommes, là où les contes, eux, présentent des hommes qui sont animalisés, en proie souvent à un désir déréglé, qu'ils ne peuvent maîtriser et qui, comme tels, sont prisonniers, on dirait aujourd'hui aliénés, ou qui ne sont plus maîtres. Et rien n'était plus ridicule, risible pour les humanistes du XVIe comme pour les classiques, que les égarements de la sexualité. Voilà. Alors là aussi, notre époque projette sans doute sur les comptes un filtre dû en partie aux représentations du 18e. Est-ce qu'évoquer la sexualité qui est consubstantielle à l'homme, c'est nécessairement chercher à émoustiller le lecteur? La sexualité est une donnée inhérente avec le désir à la condition humaine. Les pères de l'Église évoquaient ce désir et cette pulsion sexuelle. Et dans une société sous l'emprise du religieux, au XVIIe, on imagine mal que le désir ne fasse pas non plus l'objet d'une lecture théologique. Alors pour les thèmes, vous voyez, il y a des effets comme ça de perspective, d'inflexion. Les thèmes, c'est dans les contes. Il ne faut pas s'arrêter à la question de l'érotique, parce que l'érotique mène aussi aux politiques, aux rapports de force, à la violence qui traverse les sociétés. Il y a beaucoup de viols dans les contes. Et si les femmes acceptent, elles, au départ, elles sont réticentes parce qu'elles craignent pour leur honneur. Alors on a pu dire que La Fontaine offrait aux femmes une perspective de plaisir et qui leur donnait les moyens finalement de contourner les interdictions. C'est possible, hein, et que là, La Fontaine serait éminemment un adepte du plaisir, de la loi de la nature. Pourquoi pas ? Si le ton est enjoué, léger, souvent sautillant, la réalité anthropologique est sombre. Hein. Violence, rapport de force, on est dans la libido dominandi, surtout à partir de 1974. Il y a quand même des contes qui évoquent... Enfin, les poids sexuels ne sont jamais évoqués. La manière dont La Fontaine parle du corps, c'est très stéréotypé, ça nous renvoie au canon du XVIe siècle. Et les spécialistes de la littérature pornographique érotique au XVIIe parlent très peu des contes de La Fontaine, parce qu'ils ne les trouvent ni obscènes si on les compare aux recueils satiriques ou pornographiques du début du siècle. Il y a une façon pour La Fontaine, je pense aussi, de se démarquer de ce qui a été fait, parce que La Fontaine croit au cœur, à l'ordre du cœur. Hein, il y a quelques beaux contes, La courtisane amoureuse, Le faucon, qui montrent l'importance l'oraison de Saint-Julien qui montre l'importance du cœur dans l'amour. Hein. L'amour est mort sur les bords du Lignon, écrivait La Fontaine dans Les Rémois, dans un conte. Tout est dit. Hein. La Fontaine pense que la sexualité, finalement, devenue déréglée, finit par ne plus avoir de sens. Thématique. Donc ces enjeux sexuels sont aussi le lieu de reprendre ou d'approfondir ce qui avait été, parce que il va écrire conjointement aux fables, cette thématique de l'imposture, de la croyance, de la manipulation, du pouvoir des mots du pouvoir, de ce qu'il appelle péché. Ce qui frappe quand on lit les contes, c'est la récurrence du mot péché. Et des textes qui sont vraiment saturés de références bibliques. Alors est-ce que c'est pour s'en moquer? Est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre? Là, c'est au lecteur aussi d'aller y voir de plus près. Donc, vraiment des liens thématiques forts. Hein, les contes seraient un peu le versant, un versant que les femmes ne peuvent pas tout à fait aborder. Voilà. Donc les contes, rejoignent, creusent les enjeux qui sont ceux des fables, enjeux politiques, philosophiques, éthiques et parfois même épistémologiques. Hein, dans les fables, La Fontaine montre que les sens ne sont pas porteurs de mensonges, mais qu'il faut rectifier ce qu'on voit ou ce qu'on entend par la raison. Hein, mais il y a une vérité, une véracité des sens. Je vais lire à présent un conte dont la source n'a pas toujours été retrouvée. Moi, je pense qu'on la trouve dans le Deutéronome, chapitre 22, versets 1 et 2, « Le villageois qui cherche son veau ». Un villageois ayant perdu son veau l'alla chercher dans la forêt prochaine. Il se plaça sur l'arbre le plus beau pour mieux entendre et pour voir dans la plaine. Vient une dame avec un jouvenceau. Le lieu leur plaît, l'eau leur vient à la bouche, et le galant qui sur l'herbe la couche crie en voyant je ne sais quels appas. Ô Dieu, que vois-je, et que ne vois-je pas? Sans dire quoi, car c'était l'être close. Lors, le manant les arrêtant tout quoi, homme de bien qui voyez tant de choses, voyez-vous point mauvais? Dites-le-moi. Donc, non seulement le texte se trouve dans le texte source semble se trouver dans l'Ancien Testament, donc là aussi au lecteur de voir quelle peut être la signification accordée à ce poème, qui ne participe pas à la machine à gloire de Louis XIV. Donc là aussi, le choix du conte, hein, et d'une forme de choisir la bagatelle, c'est une manière de résister à la politique culturelle entreprise par Colbert pour faire rayonner Louis XIV, sa puissance. Il faut bien voir que La Fontaine, même dans ses contes, pose la question de l'impérialisme. Comment conquérir, comment posséder ou toujours plus. C'est la question lancinante, me semble-t-il, qui traverse les contes à propos de prouesses sexuelles, de conquêtes amoureuses. Donc les contes ne s'inscrivent pas dans cette machine à gloire, et ce petit conte le montre bien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Finalement, notre villageois entend un discours qu'il interprète mal, puisqu'il ne dispose pas des repères qui lui permettraient de savoir qui parle. Donc, il entend bien ce qui est, mais son imagination le conduit à se tromper sur ce qu'il entend. Donc, petite réflexion, là aussi épistémologique, qui sera reprise dans les contes. Et puis cette question de ce qui, moi aussi, j'ai l'impression que ce conte pose la question de comment lire. Il ne faut pas être trop près, trop loin. Qu'est-ce qu'on entend? La question est importante chez un conteur dont la voix ou les voix traversent régulièrement les œuvres. Qu'est-ce qu'on entend du conte de La Fontaine, de la moralité, et d'une moralité qui peut contredire là où les morales du conte. C'est d'où cet effort, d'où cette complexité redoutable. Voilà un exemple donc, qui, j'espère, donnera l'envie de lire une œuvre réhabilitée, en tout cas réexaminée depuis 2010, montre bien la complexité, là encore la subtilité de l'art de La Fontaine, qui est nourrie de références. Et j'y insiste, les textes sources des contes sont tout sauf anodins, les personnages auxquels il emprunte appartiennent tous à l'histoire des idées, politiques, religieuses, philosophiques. Voilà. Lecture de deux contes qu'il faut mettre en perspective. Contes tirés d'Athénée. Axiocus avec Alcibiade, jeune, bien fait, galant et vigoureux, par bon accord comme grands camarades en même nid furent pondre tous deux. Qu'arrive-t-il ? L'un de ses amoureux tant bien exploite autour de la donzelle qu'il en acquit une fille si belle qu'ils s'en vantaient tous deux également. Le temps venu que cet objet charmant pût pratiquer les leçons de sa mère, chacun des deux en voulut être amant. Plus n'en voulut l'un ni l'autre être père. Frère, dit l'un, ah, vous ne sauriez faire que cet enfant ne soit vous tout craché. Parbieu, dit l'autre, il est à vous, compère. Je prends sur moi le hasard du péché. Deuxième conte, autre conte tiré d'Athénée. À son souper, un glouton commande que l'on apprête pour lui seul un esturgeon, sans en laisser que la tête. Il soupe. Il crève, on y court, on lui donne main clistère, on lui dit pour faire court qu'il mette ordre à ses affaires. « Mes amis, dit le goulu, m'y voilà tout résolu, et puisqu'il faut que je meure sans faire tant de façon qu'on m'apporte tout à l'heure le reste de mon poisson. » Alors nous nous trouvons actuellement dans le jardin de La Fontaine, et quel plus bel endroit pour revenir sur des textes qui semblent donner ou livrer une clé de l'œuvre, à savoir le paradoxe. La Fontaine, le 2 mai 1684, lors de sa réception à l'Académie française, dans le discours à Madame de la Sablière, récite ces vers célèbres. Je m'avoue, il est vrai, s'il faut parler ainsi, papillon du Parnasse est semblable aux abeilles à qui le bon Platon compare nos merveilles. Je suis chose légère et vole à tout sujet. Je vais de fleur en fleur et d'objet en objet. À beaucoup de plaisir, je mêle un peu de gloire. Donc La Fontaine recourt ici à deux images contradictoires, celle du papillon, qui renverrait à sa légèreté, à son insouciance, à son étourderie, à sa paresse, et à l'abeille, qui depuis le Ion de Platon passe pour être le symbole du travail, faire son miel d'eux, c'est le sens à donner aussi à l'œuvre de La Fontaine qui puise à différentes sources. Donc premier paradoxe, premier contraste, qui croire. Lisons aussi cette épitaphe d'un paresseux que l'auteur avait rédigée. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire, quant à son temps, bien le sut dispenser, de parts en filles dont il soulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire, peut-être dans ce jardin, entre deux tâches d'officier. Cette épitaphe fait partie de la légende construite par La Fontaine lui-même et à laquelle les contemporains ou ses contemporains prêteront la main. Mais que constate-t-on ? Que cette épitaphe se place sous le signe du paradoxe, lequel paradoxe, qui est une figure de style et de pensée, nous renvoie à la culture antique, à la culture chrétienne revivifiée par l'humanisme du XVIe siècle. Mangea le fond avec le revenu, il est vrai que La Fontaine, qui disposait d'une coquette fortune, se trouve ruinée. Quel usage a-t-il fait de cet argent ? Mystère et boule de gomme. Certains disent qu'il a joué, qu'il a dépensé, qu'il allait voir les femmes. Peu de documents l'attestent. Tint les trésors, chose peu nécessaire, voilà qui est vrai, puisque toute son œuvre est traversée par cet anathème lancé contre l'argent, la simonie chez les prêtres, le refus de s'attacher aux biens terrestres, aux biens de ce monde, pour vivre en toute humilité et simplicité. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que cette épitaphe reconduit des réminiscences littéraires et des topoi qui associent le poète à la légèreté, à la jouissance, à la vie libre des cabarets et des filles. Si l'on lit l'épitaphe de Ronsard, on verra que Ronsard a les mêmes mots. Donc, dans cette épitaphe, finalement, est une réécriture d'une légende qui pose celui qui se dit humble comme enfant des muses. C'est en poète que La Fontaine rédige son épitaphe. Et c'est une manière pour lui d'affirmer sa vocation poétique. Voilà des textes donc placés sous le signe dont par fille l'une à dormir, l'autre à ne rien faire. Quand on se penche sur la production de La Fontaine, qui quand même a écrit très régulièrement, qui était soucieux, qui scrupuleux dans ses manuscrits, on se dit que cette image ne tombe pas. La Fontaine avance masquée, c'est une personnalité anamorphique, qui multiplie les confidences personnelles, qui construit au seuil de son œuvre un éthos singulier fait d'humilité et de sûreté, de confiance en lui. Alors, on peut se poser la question, pourquoi jouer ces images ? Pourquoi cette variété ? Pourquoi se cacher sous des masques ? Ça renvoie tout simplement à cette tradition du paradoxe dont le premier représentant est Socrate. Socrate est un être atopique, c'est-à-dire sans lieu propre, et d'une certaine manière, La Fontaine est ce Socrate moderne atopique, puisqu'il n'est jamais là où on l'attend. Tantôt fréquentant les milieux jansénistes, tantôt les milieux les plus débauchés. Donc qui est vraiment La Fontaine ? Qu'a-t-il voulu cacher ? Et cette idée de quand il affirme que les fables sont des badineries en apparence, que ces contes sont faits pour sont des contes à rire, que ce sont des bagatelles, on retrouve là cette idée de la tradition sylénique illustrée par Socrate. Alcibiade, à la fin du banquet de Platon, qui est ici mentionné, et Platon, qui est qui est une figure à laquelle La Fontaine restera toujours attachée. On évoquait les ouvrages de prose et de poésie des Sieurs de Maucroix et de La Fontaine. Dans l'avertissement placé en tête de l'ouvrage, La Fontaine, pour justifier le choix de son ami Maucroix qui traduit Platon, finalement passe assez vite sur la dialectique pour s'intéresser à celui qui est un poète qui fustige les vices de ses contemporains, en particulier les sophistes. Donc c'est en artiste, en poète, en dramaturge qu'il juge Platon. Mais jusqu'à la fin, Hein, on voit que l'ombre de Platon plane sur son œuvre. Donc Platon, c'est le banquet, Alcibiade, disait de Socrate hein, qu'il était laid, mais qu'à l'intérieur, il contenait des trésors. Et Rabelais, dans le prologue du Gargantua, reviendra sur cette idée hein, des silènes, ces petites boîtes d'apothicaire qui sont laides ou grotesques en apparence, mais qui, à l'intérieur, recèlent des trésors cachés. Eh bien, La Fontaine, c'est un peu ça. Sous l'écorce, hein, la substantifique moelle. Il ne s'agit pas de montrer ce qui est caché, de révéler ce qui est caché, mais plutôt d'entreprendre dans la lecture, dans la réflexion, un mouvement d'approfondissement de ce qu'on lit, hein, de digestion, de rumination. Et il est étrange de voir que les portraits, le portrait anonyme placé en tête de l'édition posthume de La Fontaine en 1696, insiste sur le débraillé, le négligé de La Fontaine, hein, qui passe souvent à la fin de sa vie pour une espèce d'abruti ou de ravi du village, qui dort, on l'invite, La Fontaine semble se baffrer, puis s'endort alors qu'on attendait une conversation éblouissante, atopique toujours, libre toujours. Hein, vraiment, cette image du Socrate, qui nous plonge au cœur de notre tradition, de notre culture occidentale, revivifiée par les humanismes et par Érasme. Donc Érasme, dans son Éloge de la folie, montrait hein, que les fous ne sont pas toujours si fous et que pour parler au prince, il fallait être fou. N'est-ce pas là, finalement, la posture de La Fontaine ? Et les contes et les fables ne sont-ils pas aussi un éloge de la folie. Voilà. Donc voilà l'un des derniers portraits anonymes de La Fontaine, placé en tête de l'édition posthume de 1696. Qui lit-on ? Il faut pourtant avouer que la personne de cet auteur fameux ne prévenait pas beaucoup en sa faveur. Il était semblable à ces vases simples et sans ornement qui renferme au-dedans des trésors infinis. Il se négligeait, était toujours habillé très simplement, avait dans le visage un air grossier. Mais cependant, dès qu'on le regardait un peu attentivement, on trouvait de l'esprit dans ses yeux et une certaine vivacité que l'âge même n'avait pu éteindre, faisait voir qu'il n'était rien moins que ce qu'il paraissait.